Voici une question que nous devons tous examiner sérieusement. Devons-nous toujours subir les conséquences de nos péchés? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse que nous avons intérêt à retenir aujourd'hui même à l'émission « À travers la Bible ».
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. On a encore de très bonnes questions aujourd'hui. J'ai bien hâte d'entendre ce que la Bible va nous enseigner suite à ces questions. Qui est-ce qui a tué le roi Saül? Est-ce que notre obéissance est importante pour Dieu? Devons-nous subir des conséquences pour nos péchés, même après nous être repentis sincèrement et après avoir reçu le pardon de Dieu? Pouvons-nous avoir une paix réelle en dehors des voies de Dieu? Est-il réservé à Dieu seul d'établir des ouvriers dans son œuvre et de les en retirer? Est-ce que David a été heureux en amour? Restez avec nous. Je suis certaine qu'on va apprendre de grandes choses aujourd'hui à travers l'enseignement de la parole de Dieu. Le pasteur Régent Joly est prêt à nous enseigner ce qu'elle dit en réponse à nos questions. Mais premièrement, demandons à Dieu de disposer nos cœurs, de nous donner de la concentration afin qu'on comprenne bien ce qu'il veut dire. Prions. Oh oui, Seigneur, dispose nos cœurs à recevoir ce bon enseignement. Aide-nous à nous concentrer et à ne pas oublier ce que tu vas nous enseigner. Qu'on soit pas ces écouteurs oublieux qui ne mettent pas en pratique, mais qu'on soit des écouteurs qui retiennent et qui mettent en pratique ta parole. On a besoin de toi, Seigneur, on a besoin que tu nous enseignes et que tu nous fortifies. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire aujourd'hui. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu Dieu intervenir afin que David ne commette pas la plus grande bourde de sa vie lors d'une période de découragement. En effet, David s'était réfugié chez les Philistins et Achish, le roi de Gath, s'attendait à ce que David l'accompagne dans une guerre contre Israël. Cependant, les princes des Philistins ne faisant pas confiance à David, ils insistèrent afin qu'Achish le renvoie. David s'en retourna à Ticlag pour y découvrir que les Amalécites avaient détruit la ville pendant son absence et emmené captifs les femmes et les enfants. Les hommes de David voulaient lapider David, mais David reprit courage en s'appuyant sur Dieu. Il arrive que Dieu nous fasse passer par l'épreuve, afin que nous nous rendions compte que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Aujourd'hui, chers amis, nous reprenons notre récit avec le combat entre les Philistins et Israël. Dieu n'est plus avec Saül, et Israël subit une défaite cuisante. De plus, nous allons répondre à une question qui est plus mystérieuse qu'elle paraît au premier abord. Qui a tué Saül? Chers amis, débutons notre lecture. 1 Samuel chapitre 31, versets 1 à 3. Les Philistins livrèrent bataille à Israël, et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malchishua, fils de Saül. L'effort du combat porta sur Saül, les archers l'atteignirent et le blessèrent grièvement. Ce fut un désastre pour Israël ce jour-là. L'armée prit la fuite, les fils de Saül furent tués. Nous regrettons le fait que Jonathan périt dans cette bataille. Puis, Saül fut blessé par une flèche tirée par un archer. Jonathan avait déjà tué 250 Philistins lui seul au combat. Sa mort est vraiment regrettable. Cependant, même si Saül avait avec lui un fils courageux, cela ne pouvait compenser pour le fait que Dieu n'était plus avec lui. Verset 4. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée et transperce-moi, de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir leurs outrages. » celui qui portait ses armes, ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Saül était mortellement blessé, et il savait que l'ennemi viendrait l'achever. Puisqu'il était orgueilleux et égoïste, Saül pensait que mourir dans les mains de ses adversaires était une mort inappropriée pour lui. Saül demanda à son porteur d'armes de l'achever, mais celui-ci n'osa pas le faire. Donc, Saül se jeta sur son épée. Cela semble être un suicide, mais l'était-ce vraiment? Qui a tué Saül? Poursuivons notre lecture, versets 5 à 9. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui. Ainsi périrent en même temps, dans cette journée, Saül et ses trois fils, celui qui portait ses armes et tous ses gens. Ceux d'Israël qui étaient de ce côté de la vallée, de ce côté du Jourdain, ayant vu que les hommes d'Israël s'enfuyaient et que Saül et ses fils étaient morts, abandonnèrent leur ville pour prendre aussi la fuite. Et les Philistins allèrent s'y établir. Le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les morts, et ils trouvèrent Saül et ses trois fils tombés sur la montagne de Gilboa. Ils coupèrent la tête de Saül et enlevèrent ses armes. Puis ils firent annoncer ces bonnes nouvelles par tout le pays des Philistins, dans les maisons de leurs idoles et parmi le peuple. Les armes de Saül circulèrent dans tout le pays des Philistins. C'est ainsi que la nouvelle de la victoire sur Israël fut proclamée dans le pays. Nous comprenons mieux maintenant pourquoi Saül avait proposé son armure à David lorsqu'il affronta Goliath. Si David avait porté l'armure, Saül aurait pris le crédit pour la victoire. C'est ainsi que Saül a agi envers Jonathan. Ce jeune homme a remporté deux victoires éclatantes, et Saül a fait annoncer dans le pays qu'il avait remporté ses victoires sans donner aucun crédit à son propre fils. Verset 10 à 13. Ils mirent les armes de Saül dans la maison des Astartés, et ils attachèrent son cadavre sur les murs de Beth-Shan. Lorsque les habitants de Jabès en Galaad apprirent comment les Philistins avaient traité Saül, tous les vaillants hommes se levèrent, et après avoir marché toute la nuit, ils arrachèrent des murs de Beth-Shan le cadavre de Saül et ceux de ses fils. Puis ils revinrent à Jabès, où ils les brûlèrent. Ils prirent leurs os et les enterrèrent sous le tamaris à Jabès, et ils jeûnèrent 7 jours. Dieu demande et attend des cœurs obéissants. Nous terminons ici le dernier chapitre du livre de 1 Samuel. Quelqu'un peut se demander, quel est le mystère au sujet de la mort de Saül? Cependant, nous n'avons pas terminé ce récit. Il se poursuit dans le deuxième livre de Samuel. Nous allons découvrir les conséquences au fait que Saül a épargné les Amalécites, ce que Samuel lui avait reproché. Il a dit à Saül, « Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et la soumission vaut mieux que la graisse des béliers. » 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Dieu voulait un cœur obéissant, mais Saül ne s'est jamais incliné devant le Dieu Tout-Puissant. Saül a épargné les Amalécites, et nous découvrirons que c'est un Amalécite qui a probablement tué Saül. Quelqu'un peut dire, « Voyons, Régent, tu viens de nous lire que ce sont les Philistins qui ont tué Saül. Un archer l'a atteint d'une flèche, et il fut blessé mortellement. Il a demandé à son porteur d'armes de l'achever, mais celui-ci a refusé. Finalement, Saül s'est jeté sur sa propre épée. N'est-ce pas ainsi que Saül est mort? N'est-ce pas un dossier clos? Chers amis, je ne pense pas. Le prochain chapitre, soit le premier chapitre de 2 Samuel, nous donnera des renseignements supplémentaires. Soyez à l'écoute et attentifs. Dieu ne laisse pas les siens s'en tirer avec le péché. Nous passons maintenant au deuxième livre de Samuel. Nous y verrons les victoires et les triomphes de David. Il était un homme selon le cœur de Dieu, et Dieu fut avec lui. Cependant, dans la deuxième partie du livre, nous verrons que David a commis 2 péchés graves. David ne s'en est pas tiré parce qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. Parce que David a fait blasphémer Israël avec son péché, Dieu l'a sévèrement châtié. Il ne l'a pas rejeté comme il l'a fait avec Saül, car David était un excellent roi. Cependant, Dieu n'a pas toléré le péché de David, et il dut en subir les conséquences fâcheuses, malgré qu'il ait confessé son péché et qu'il fût pardonné. Rappelez-vous le principe de Dieu. Un homme récolte ce qu'il sème. Dans ce premier chapitre, David pleure la mort de Saül et de Jonathan. Nous n'aurons peut-être pas une réponse complète au sujet de l'identité de la ou des personnes responsables de la mort de Saül. Mais nous allons ajouter un nouveau suspect sur la liste. Un jeune Amalécite qui s'est enfui du camp d'Israël et qui a rapporté la mort de Saül à David. Il a affirmé avoir achevé Saül. David exécutera cet homme pour avoir osé porter la main sur loin de l'Éternel, ce que David n'avait pas osé faire. David exprimera sa peine avec un texte touchant, poétique et dramatique. Chers amis, poursuivons notre lecture et voyons qui est exactement notre nouveau suspect. Lisons ensemble 2 Samuel, chapitre 1, versets 1 et 2. Après la mort de Saül, David, qui avait battu les Amalécites, était revenu à Ticlag depuis 2 jours. Le 3e jour, un homme arriva du camp de Saül, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il fut en présence de David, il se jeta par terre et se prosterna. Il n'y a pas de paix hors des voies de Dieu, chers amis. C'est une page sombre de l'histoire d'Israël. Le peuple a subi une défaite, car il ne marchait plus dans les voies de Dieu. Il y a une leçon pour nous dans cet incident. À la fin du dernier conflit mondial, nous avons pensé qu'il n'y aurait plus de guerre et que nous pourrions jouir paisiblement d'une vie de péché loin de Dieu. Malheureusement, nous ne voyons que conflit après conflit depuis 1945. Tout peuple, toute nation ou tout individu qui ne marche pas dans les voies de Dieu verra des temps de turbulence et de conflit. Le prophète Ésaïe a dit, « Il n'y a point de paix, dit mon Dieu, pour les méchants. » Ésaïe chapitre 57, verset 21. Ésaïe a répété cet énoncé à 3 reprises. Peut-être devrions-nous y porter plus d'attention. Israël passe par des temps difficiles. Observez sa situation. Le roi Saül est mort. Il en est de même pour 3 de ses fils. Israël a perdu le combat. Les Philistins se sont emparés de la région nord, près de la mer de Galilée, et maintenant ils gagnent du terrain dans le sud. Tout cela dû à la désobéissance du peuple de Dieu. David ignorait l'issue du combat, puisque lui et ses hommes ont poursuivi les Amalécites qui avaient capturé leurs femmes et leurs enfants. Ils étaient de retour à Ticlag, après 2 jours, et ils n'avaient entendu parler de rien. Finalement, un homme aux vêtements déchirés et le corps recouvert de terre leur apporte des nouvelles. Il leur dit qu'il arrivait du champ de bataille. Il annonce à David la victoire des Philistins et le décès de Saül. Ensuite, il donne tous les détails à David. Versets 3 à 10. David lui dit, « D'où viens-tu? » Et il lui répondit, « Je me suis sauvé du camp d'Israël. » David lui dit, « Que s'est-il passé? Dis-le-moi donc. » Et il répondit, « Le peuple s'est enfui du champ de bataille, et un grand nombre d'hommes sont tombés et ont péri. Saül même et Jonathan, son fils, sont morts. » David dit au jeune homme qui lui apportait ces nouvelles, « Comment sais-tu que Saül et Jonathan, son fils, sont morts? » Et le jeune homme qui lui apportait ces nouvelles répondit, « Je me trouvais sur la montagne de Gilboa, et voici, Saül s'appuyait sur sa lance, et voici les chars et les cavaliers étaient prêts de l'atteindre. S'étant retourné, il m'aperçut et m'appela. Je dis, « Me voici. » Et il me dit, « Qui es-tu? » Je lui répondis, « Je suis Amalécite. » Il dit, « Approche donc, et donne-moi la mort, car je suis pris de vertige, quoique encore plein de vie. » Je m'approchai de lui, et je lui donnai la mort, sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. J'ai enlevé le diadème qui était sur sa tête et le bracelet qu'il avait au bras, et je les apporte ici à mon Seigneur. » Est-ce que cet Amalécite dit la vérité? Où a-t-il trouvé le corps de Saül et ramassé la couronne et les bracelets? Je pense que cet Amalécite a vu Saül alors qu'il vivait toujours après s'être jeté sur son épée. Saül lui a demandé de l'achever et il l'a fait. Lorsque cet homme raconte à David ce qu'il a fait, il s'attend à recevoir une médaille ou une pension à vie. Il croit que David l'honorera. Mais lisons le texte, versets 11 à 14. David saisit ses vêtements et les déchira, et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Ils furent dans le deuil, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir à cause de Saül, de Jonathan, son fils, du peuple de l'Éternel et de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. David dit au jeune homme qui lui avait apporté ces nouvelles, « D'où es-tu ? » Et il répondit, « Je suis le fils d'un étranger, d'un Amalécite. » David lui dit, « Comment n'as-tu pas craint de porter la main sur loin de l'Éternel et de lui donner la mort ?» C'est à Dieu de placer et de retirer les ouvriers dans son œuvre, chers amis. Si cet homme a tué Saül, c'est parce que Saül n'a pas obéi à Dieu en refusant d'exterminer tous les Amalécites lorsque Dieu lui a demandé de le faire. Si Saül avait obéi à Dieu, cet Amalécite n'aurait pas été là pour le faire, et Saül aurait peut-être survécu. David a demandé au jeune homme pourquoi il n'avait pas craint de porter la main sur Saül loin de l'Éternel. David lui-même avait refusé de tuer Saül lorsqu'il en a eu l'occasion à deux reprises. Il est bon d'examiner les choses du point de vue de Dieu. Aussi longtemps que Saül était roi, David ne pouvait pas lui toucher. Personne d'autre ne pouvait lui toucher, car c'est Dieu qui l'avait établi roi d'Israël, et seul Dieu pouvait lui retirer sa couronne au moment choisi. Chers amis, attendons-nous à Dieu en toutes circonstances. Faisons-lui confiance. Il est le Dieu souverain. Dieu juge les personnes qui s'en prennent à son œuvre. Oui, chers amis, nous devons faire attention et de ne pas intervenir dans le travail de Dieu. Ceux qui essaient de supplanter ou de chasser des ouvriers de Dieu en paix le prient. Dieu juge les personnes qui s'en prennent à son œuvre. Il a toujours agi ainsi. C'est pourquoi David a répondu comme il l'a fait au jeune Amalécite. « Comment n'as-tu pas craint de porter la main sur loin de l'Éternel et de lui donner la mort ?» Versets 15 et 16. Et David appela l'un de ses gens et dit, « Approche et tue-le. » Cet homme frappa l'Amalécite qui mourut. Et David lui dit, « Que ton sang retombe sur ta tête, car ta bouche a déposé contre toi, puisque tu as dit, « J'ai donné la mort à loin de l'Éternel. » Si cet homme avait menti en admettant avoir tué Saül, alors il fit une erreur fatale. David l'a fait exécuter sur la base de sa confession et de ses paroles. Je pense que ce jeune homme a vraiment tué Saül. Il a fait ce que David n'a pas osé faire, et David l'a jugé. Verset 17. Voici le cantique funèbre que David composa sur Saül et sur Jonathan son fils. David éprouvait une peine profonde et sincère à la mort de Saül et de Jonathan. Ce cantique le démontre. Verset 18. Et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. C'est le cantique de l'arc. Il est écrit dans le livre du Juste. Saül avait enseigné quelque chose à Israël. Les hommes n'avaient pas d'épée, alors il leur enseignait à devenir archers. L'arc était une arme formidable à l'époque. Ce cantique est écrit en poésie hébraïque. David était un poète né. Lisons les versets 19 et 20. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment des héros sont-ils tombés? Ne l'annoncez point dans Gath, n'en publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Gath était la capitale des Philistins. Ascalon était située dans la bande de Gaza, et c'était une des cinq principales villes des Philistins. Versets 21 à 26. montagne de Gilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée ni pluie, ni champ qui donne des prémices pour les offrandes. Car là ont été jetés les boucliers des héros, le bouclier de Saül. L'huile a cessé de les oindre. Devant le sang des blessés, devant la grâce des plus vaillants, l'arc de Jonathan n'a jamais reculé, et l'épée de Saül ne retournait point à vide. Saül et Jonathan, aimables et chéris pendant leur vie, n'ont point été séparés dans leur mort. Ils étaient plus légers que les aigles, ils étaient plus forts que les lions. Fille d'Israël, pleurez sur Saül, qui vous revêtait magnifiquement de cramoisi, qui mettait des ornements d'or sur vos habits. Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il succombé sur tes collines? Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour des femmes. Saül et Jonathan étaient des hommes courageux. Saül avait apporté de la prospérité en Israël. Les filles d'Israël portaient de magnifiques vêtements de cramoisi et des bijoux. David et Jonathan s'aimaient profondément et sincèrement. Notez que David dit « au-dessus de l'amour des femmes ». Il avait épousé la sœur de Jonathan. Michal le trahira plus tard. Au début, elle a aimé le héros qu'était David, mais plus tard, elle le méprisa. David ne fut pas très heureux en amour. Abigaïl est la seule femme noble que l'on remarque dans son entourage. Bathsheba n'était pas une femme exceptionnelle. Quoique David ait péché dans cette affaire et que Dieu l'ait jugé, que faisait Bathsheba nue sur le toit à prendre son bain? David a eu des problèmes avec ses femmes, mais Jonathan lui fut un ami sincère et loyal jusqu'à la fin. Les hommes qui suivirent David lui furent tous très loyaux. Verset 27. Comment des héros sont-ils tombés? Comment leurs armes se sont-elles perdues? Quel hommage pour ces deux hommes, surtout pour Jonathan. Nous sommes devant la lamentation la plus touchante de la Bible. Au prochain chapitre, nous verrons David monter sur le trône de Juda. Nous ferons la rencontre d'Abner, le chef de l'armée de Saül. Tous les fils de Saül ne sont pas morts, seulement ceux qui étaient au combat. Saül avait un autre fils nommé Ish-bosheth. Abner l'établira pour régner sur les 11 autres tribus et une guerre civile s'ensuivra. Après une longue guerre civile, David viendra régner sur les 12 tribus d'Israël et il s'établira à Hébron. Plus tard, il fera de Jérusalem sa capitale. Nous entrons dans une section historique qui racontera des événements plus intéressants les uns que les autres, même si cet avis n'est pas partagé par tous. Nous y trouverons de merveilleuses leçons spirituelles que nous pourrons appliquer à notre situation, tout comme celle d'aujourd'hui. Sur quoi ou sur qui tu te bases ou tu t'appuies pour avoir le succès dans toutes tes entreprises? Sur l'argent, la gloire, prestige, l'orgueil de l'homme, ses capacités, ou sur Dieu, sur Jésus et ses capacités, celui qui a plein pouvoir sur toutes choses, nous dit les Saintes Écritures. C'est vers lui que nous devons nous tourner, et c'est en lui que nous devons nous appuyer, celui qui peut tout, en toutes circonstances. Il a le pouvoir d'agir, il n'est pas limité. Nous, nous sommes des êtres limités. Faisons-lui confiance et soyons heureux. Chers amis, prochaine émission, 2 Samuel, chapitre 2, verset 1 à chapitre 3, verset 39.
Merci, Régent. On a vu aujourd'hui à quel point il est important d'obéir à Dieu. Régent a cité le verset dans le premier livre de Samuel, au 15e chapitre, verset 22, qui dit « Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices » et la soumission vaut mieux que la graisse des béliers. On a vu que Saül avait payé cher pour sa désobéissance envers Dieu. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Depuis le jour de ma conversion, il y a déjà plus de 26 ans. J'ai connu des croyants qui faisaient toutes sortes de sacrifices, qui ont donné leur temps et leur argent pour soutenir l'œuvre de Dieu. Je sais que c'est très bien de faire tout ça, mais il y en a parmi ces gens qui croyaient qu'ils n'avaient rien d'autre à faire pour plaire à Dieu. Ils ne se soumettaient pas à l'enseignement de la parole de Dieu. Et éventuellement, ces gens ont quitté les voies de Dieu avec beaucoup d'amertume dans l'âme. Et ils sont malheureux aujourd'hui. C'est pourquoi Jean a mentionné le verset qui dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu aime un cœur obéissant. Et ce qui est encore plus intéressant dans tout ça, c'est de constater que tout ce que Dieu nous ordonne de faire, c'est pour notre bien, même humainement parlant. Si on regarde les 10 commandements de Dieu, par exemple, quand on n'en transgresse qu'un seul, on est malheureux. Je regarde ma vie avant que je ne connaisse le Seigneur Jésus. Alors que je vivais dans la débauche, que j'avais un amant après l'autre, j'étais misérable, malheureuse, découragée de la vie. Et maintenant que je suis une enfant de Dieu et que je ne commets plus l'adultère, je suis très heureuse. Et je pourrais passer les 9 autres commandements de Dieu en revue, ainsi que ce que Jésus nous a commandé de faire quand il est venu sur la terre, et je vois que tout ce qu'il nous demande de faire, c'est pour notre bien. Et quand on met la parole de Dieu en pratique, on est heureux, parce qu'on démontre à Dieu qu'on l'aime en retour de tout ce qu'il a fait pour nous. Mon ami, je sais que, tout comme moi, tu as péché au cours de ta vie. Tu as désobéi à Dieu toi aussi. Et à cause de ça, en ce moment, tu es peut-être séparé de Dieu parce qu'il ne peut pas supporter ton péché. N'oublions pas que la parole de Dieu dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il est temps que tu reprennes ta relation avec Dieu. Et en ce moment, Dieu frappe à la porte de ton cœur. Si tu entends sa voix à travers la mienne, si tu ouvres la porte de ton cœur, il va te pardonner. Tu vas devenir un enfant de Dieu. Il va habiter en toi par son Esprit Saint. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce que la Bible dit, c'est ce que la parole de Dieu dit. Et je peux te l'attester parce que je vis maintenant une relation extraordinaire avec le Seigneur, depuis que j'ai mis toute ma confiance en Jésus seul pour le pardon de mes péchés. Jésus est mort sur la croix pour moi, il l'a fait pour toi aussi. Repens-toi, détourne-toi de tout ce qui est péché dans ta vie. Demande à Jésus de te pardonner, de te sauver, de te donner la vie éternelle. Ses bras sont grands ouverts devant toi en ce moment et il est prêt à faire de toi un enfant de Dieu. Reçois Jésus comme ton sauveur, comme ton Seigneur. Je t'encourage à le faire maintenant, pendant qu'il est encore temps.
Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir?
C'est justement comme ce que tu viens de dire, Réjean, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer, et ensuite on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne, comme toi, Réjean. La dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épatée. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé, et en même temps, ton sens de l'humour qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors c'est ça un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit.
Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners?
Vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647 ou via courriel.
À www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, province de Québec, le G1G-6P2. Au revoir.
Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.